Chapitre 3.
Yéma.
La figure de proue regardait fixement droit devant elle en taillant la lame. Le vent en poupe gonflait ses voiles et la poussait en avant. L'étrave coupante faisait jaillir une blanche envolée d'embrun. Les gouttelettes emperlaient les joues de Vivacia et les boucles mousseuses de sa chevelure noire. Elle avait laissé derrière elle les îles des autres et de la crête. Elle faisait route vers l'ouest, loin du grand large, en direction du chenal traître qui séparait l'île dernière et l'île du mur protecteur. Au-delà de cette chaîne se situait la passe intérieure, abritée jusqu'à la relative sécurité des îles des pirates. Dans son gréement, l'équipage se déplaçait lestement jusqu'à ce que six voiles aient fait plein ventre. De ses longues mains, le capitaine Kenneth se cramponnait à la lisse de proue en clignant ses yeux bleu pâle. Les embruns mouillaient sa chemise blanche et son élégante veste noire de drap fin, mais il ne s'en souciait pas. À l'instar de la figure de proue, il regardait fixement devant lui avec ardeur, comme si sa volonté pouvait forcer encore l'allure du navire.
« Yéma a besoin d'un guérisseur !» déclara brusquement Vivacia.
D'une voix désolée, elle ajouta
« Nous aurions dû garder l'esclave chirurgien du Grincheux. Nous aurions dû le forcer à venir avec nous. »
La figure de proue croisa les bras et les serra étroitement sur sa poitrine. Elle ne se retourna pas vers Kenneth, mais demeura les yeux rivés sur la mer. Elle crispait les mâchoires. Le capitaine pirate respira profondément et effaça de sa voix toute trace d'exaspération.
« Je sais ce que tu redoutes. Mais tu dois écarter ces pensées. Nous sommes à des jours de tout avant-poste. D'ici qu'on accoste la terre, Yéma sera convalescent ou bien il sera mort. Nous le soignons du mieux possible, navire. Maintenant, il ne reste qu'à compter sur ses propres forces. »
Il tâcha un peu tard de la réconforter. Il déclara sur un ton plus doux
« Je sais que tu t'inquiètes pour le gamin. Je suis aussi préoccupé que toi. Tiens-t'en à cela, Vivacia. Il respire, son cœur bat, il boit de l'eau et l'élimine normalement. Il présente tous les signes de quelqu'un qui va s'en sortir. J'en ai vu assez de blessés dans ma vie pour le savoir. »
« C'est ce que tu m'as dit. »
Les mots étaient hachés.
« Je t'ai écouté. Maintenant, je t'en supplie, écoute-moi. Sa blessure n'est pas ordinaire. Elle va au-delà de la douleur ou des lésions de sa chair. Yéma n'est plus là, Kenneth. Je ne peux pas le sentir du tout. »
Sa voix se mit à chevrotter.
« Tant que je ne le sens pas, je ne peux pas l'aider. Je ne peux lui prêter ni force ni réconfort. Je suis impuissante, inutile. »
Kenneth se força à contenir son impatience. Derrière lui, Yola hurlait furieusement sur les hommes, menaçant de les écorcher vifs s'ils ne mettaient pas un peu de nerf.
« Tu gaspilles ta salive, » pensa Kenneth. « Il te suffit d'en punir un une fois et tu n'auras plus jamais besoin de les menacer. »
Il croisa les bras réprimant son humeur. La rigueur n'était pas de mise avec le navire. Pourtant, il avait du mal à brider son irritation. L'inquiétude qu'il ressentait pour le garçon le rongeait déjà comme un chancre. Il avait besoin de Yéma. Il le savait. Il se sentait lié à lui par un lien quasi mystique. Le garçon était intimement mêlé à sa chance et à son destin de roi. Parfois, il lui semblait que Yéma était son double, plus jeune, plus innocent, que sa vie rude n'avait pas marqué. Quand il songeait à lui de la sorte, il éprouvait à son égard une singulière tendresse. Il pouvait le protéger, il pouvait être pour lui le guide que lui-même n'avait jamais eu. Cependant, il fallait qu'il soit le seul protecteur du gamin. Le lien qui unissait Yéma au navire représentait un double obstacle. Tant qu'il subsisterait, ni le navire ni le garçon ne lui appartiendraient complètement. Il déclara d'un ton ferme
« Tu sais qu'il est à bord. Tu nous as toi-même rattrapés et sauvés. Tu as vu qu'on l'embarquait. Crois-tu que je te mentirais en te disant qu'il est vivant si ce n'était pas le cas ?»«
Non, »
répondit-elle avec difficulté.
« Je suis sûr que tu ne me mentirais pas. D'ailleurs, je suppose que s'il était mort, je l'aurais senti. »
Elle secoua sauvagement la tête, faisant flotter son opulente chevelure.
« Nous avons été longtemps si étroitement liés. Je ne peux pas te faire comprendre quel effet cela me fait de le savoir à bord sans avoir conscience de lui. C'est comme si j'étais coupé d'une partie de moi-même. »
Sa voix se réduisit à un murmure. Elle avait oublié à qui elle s'adressait. Kenneth s'appuya plus lourdement sur sa béquille de fortune. Il frappa trois fois de son pilon sur le pont.
« Tu penses que je ne suis pas capable d'imaginer ce que tu ressens ?»«
Si, je le sais, »
concéda-t-elle.
« Ah, Kenneth, je n'arrive pas à exprimer à quel point je me sens seule sans lui. Tous les mauvais rêves, toutes les pensées malignes qui m'ont jamais hanté se déversent sans frein de tous les coins de ma tête. Ils bafouillent et se moquent de moi. Leur raillerie sournoise attaque la conscience que j'ai de moi-même. »
Elle leva ses larges mains de bois sorcier et pressa les paumes sur ses tempes.
« Je me suis si souvent répété que je n'avais plus besoin de Yéma. Je sais qui je suis, et je crois que je suis bien plus grande qu'il ne pourra jamais le concevoir. »
Elle poussa un soupir exaspéré.
« Il peut être tellement agaçant. Il débite des platitudes et m'assène sa théologie au point que j'en arrive à jurer que je serais plus heureux sans lui. Pourtant, quand il n'est pas avec moi et que je dois alors affronter ce que je suis vraiment... »
Elle secoua la tête à court de mots.
Quand j'ai senti sur mes mains l'humeur visqueuse que le serpent a laissée sur la yole...
Elle s'interrompit.
Elle reprit bientôt, d'une voix altérée. J'ai peur. Je sens en moi une vraie terreur, Kenneth.
Elle se contorsionna pour le regarder par-dessus son épaule nue.
J'ai peur de la vérité qui se tapit en moi, Kenneth. J'ai peur de l'intégralité de ma nature. Je montre un visage au monde, mais je ne suis pas que ce visage. Il y en a d'autres cachés en moi. Je sens un passé derrière mon passé. Si je ne m'en protège pas, j'ai peur qu'il s'échappe de moi et change ce que je suis. Pourtant, c'est incompréhensible. Comment pourrais-je être autre que celle que je suis maintenant? Comment puis-je avoir peur de moi-même? Je ne comprends pas pourquoi je ressens cela. Et toi?
Kenneth serra les bras sur sa poitrine et mentit.
Je crois que tu es sujette aux idées folles, ma dame de mère. Rien de plus. Peut-être te sens-tu un peu coupable. Je sais que moi-même je m'en veux d'avoir emmené Yémin sur l'île des autres où il a été exposé à ce danger. Pour toi, le remords doit être encore plus vif. Tu t'es montré distante à son égard ces derniers temps. Je sais que je suis venu m'interposer entre toi et lui. Pardonne-moi, mais je ne le regrette pas. Maintenant que tu as été confronté à la possibilité de le perdre, tu chéris l'emprise qu'il a encore sur toi. Tu te demandes ce que tu vas devenir s'il meurt, ou s'il s'en va. »
Kenneth secoua la tête et lui adressa un sourire désabusé.
« Tu ne me fais pas encore confiance, je le crains. Je te l'ai dit, je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin de mes jours. Pourtant tu continues à t'accrocher à lui comme s'il était seul digne d'être ton partenaire. »
Il marqua une pause, puis hasarda une manœuvre pour voir comment elle allait réagir.
Je crois que nous devrions profiter de cette période pour nous préparer au départ de Yéma. Nous avons beau l'aimer tous les deux. Nous savons bien que son cœur n'est pas ici, mais à son monastère. L'heure viendra où nous devrons le laisser partir si nous l'aimons vraiment. Tu n'es pas d'accord?
Vivacia se détourna vers la mer.
Si, je crois.
Mon adorable fleur d'eau. Pourquoi ne me laisses-tu pas le remplacer auprès de toi?
Le sang est mémoire,
dit-elle tristement.
Yéma et moi partageons le sang et les souvenirs.
Ce fut douloureux car il avait mal dans tous ses membres, mais Kenneth se baissa lentement sur le pont. Il posa la main à plat sur la tache de sang qui conservait encore le contour de sa hanche et de sa jambe.
« Mon sang,
dit-il à mi-voix. J'étais étendu là quand on m'a amputé. Mon sang t'a imprégné. Je sais que tu as partagé mes souvenirs alors.
En effet. Et de nouveau, quand tu es mort. Pourtant...
Elle s'interrompit puis reprit d'une voix plaintive.
Même inconscient, tu t'es caché de moi. Tu as partagé ce que tu as choisi de divulguer, Kenneth. Tu as dissimulé le reste dans le mystère et dans l'ombre, en niant l'existence même de ces souvenirs.
Elle secoua sa tête massive.
Je t'aime, Kenneth, mais je ne te connais pas. Pas comme Yéma et moi nous connaissons. Je conserve en moi les souvenirs de 3 générations de sa famille. Son sang aussi m'a imprégné. Nous sommes comme 2 arbres issus d'une même racine.
Elle respira tout à coup.
Je ne te connais pas,
répéta-t-elle.
Si je te connaissais vraiment, je comprendrais ce qui s'est passé quand tu es revenu de l'île des autres. Les vents et la mer elles-mêmes ont paru obéir à tes ordres. Un serpent s'est incliné devant ta volonté. Je ne comprends pas, pourtant j'en ai été témoin. Mais tu n'as pas jugé bon de m'expliquer.
Elle lui demanda très doucement.
Comment pourrais-je placer ma confiance dans un homme qui se méfie de moi?
Durant un instant, le silence souffla avec le vent. Je vois, répondit Kenneth avec difficulté. Et il se redressa sur son genou, puis se releva laborieusement en s'aidant de sa béquille. Elle l'avait blessé et il décida de le lui montrer. Tout ce que je peux te dire, c'est que le moment n'est pas encore venu de me révéler à toi. J'espérais que tu m'aimais assez pour être patiente. Tu as réduit cet espoir à néant. Malgré tout, j'espère que tu me connais suffisamment pour me croire. Yéma n'est pas mort. Il montre des signes de rétablissement. Dès qu'il sera remis, je ne doute pas qu'il vienne te voir. Alors, je ne m'imposerai pas entre vous.
Kenneth !
S'écria-t-elle, mais il s'en allait lentement en boitant. En atteignant la descente qui menait au Frontillac, il dut se baisser gauchement pour l'atteindre. Il posa sa béquille et descendit à grand-peine l'échelle. Ce n'était pas commode pour un unijambiste, mais il y parvint sans aide. Etta, qui aurait dû être à ses côtés, se trouvait au chevet de Yéma. Il supposa qu'elle aussi préférait la compagnie du gamin à la sienne. Personne ne semblait se soucier de son épuisement après les efforts qu'il avait déployés sur l'île des autres. Malgré le temps chaud, il avait contracté une toux due à son long et pénible séjour dans l'eau. Il était courbattu, rompu, mais personne ne lui témoignait sympathie ni soutien, car Yéma était blessé, le corps brûlé par le venin du serpent de mer. Yéma. Etta et Vivacia ne voyaient plus que lui.
Oh, pauvre pirate! Pauvre pitoyable pirate mal-aimé!
Ces mots furent prononcés par une petite voix traînante, sarcastique, qui provenait de l'amulette sculptée attachée au poignet de Kenneth. Il n'aurait même pas entendu la voix ténue haletante s'il n'avait pas descendu l'échelle, la main cramponnée au barreau près de son visage. Il atteignit le pont inférieur. D'une main, il se retint à l'échelle, tandis que de l'autre, il ajustait sa veste et faisait bouffer la dentelle à ses poignets. Il était enflammé de colère. Jusqu'au charme de bois sorcier, qu'il avait créé pour lui porter chance, qui se retournait contre lui. Sa propre figure, sculptée en miniature, se raillait de lui. Il eut l'idée d'une menace destinée à ce petit scélérat. Il leva la main pour lisser la pointe de sa moustache. Le minuscule visage tout près de sa bouche, il fit remarquer à mi-voix.
« Le bois sorcier, ça brûle. » « Ainsi que la chair. » rétorqua la petite voix grêle. « Toi et moi sommes liés aussi intimement que Vivacia et Yéma. Tu veux l'éprouver, ce lien? Tu as déjà perdu une jambe. Ça te tente, une vie sans yeux ?»
Les mots de l'amulette lui glacèrent l'échine. Que savait-elle au juste?
« Ah, Kenneth, il ne peut guère y avoir de secret entre nous. Guerre !»
Le charme répondait à ses pensées davantage qu'à ses paroles. Pouvait-il vraiment lire dans son esprit, ou devinait-il grâce à sa perspicacité?
« Voilà un secret que je pourrais partager avec Vivacia, »
poursuivit l'amulette impitoyable.
Je pourrais lui dire que tu n'as toi-même aucune idée de ce qui s'est produit durant le sauvetage. Qu'une fois l'exaltation passée, tu t'es blotti dans ton lit en tremblant comme un enfant pendant qu'Eta s'occupait de Yémin.
Un silence.
Peut-être Eta trouvera-t-elle cela amusant?
Un regard involontaire à son poignet lui fit voir le sourire sardonique du charme.
Kenny chassa un profond malaise. Il n'allait pas faire à cette méchante petite teigne l'honneur de lui répondre. Il reprit sa béquille et s'écarta rapidement devant une poignée de matelots se hâtant de rétablir une voile qui n'était pas au goût de Yola.
Que s'était-il effectivement passé quand ils avaient quitté l'île des autres?
La tempête faisait rage autour d'eux et Yémin était inconscient, peut-être mourant, au fond de la yole. Kenneth était en furie contre le sort qui cherchait à le déposséder de son avenir alors qu'il était si près de toucher au but. Il s'était levé dans le canot, avait secoué le poing et interdit à la mer de le noyer, au vent de lui résister. La mer et le vent n'avaient pas seulement prêté attention à ses paroles, mais le serpent venu de l'île avait émergé de l'abîme pour réunir la yole à son navire. Il souffla brusquement, refusant de céder à la crainte superstitieuse. Il était déjà assez pénible de voir l'équipage le couver des yeux et trembler de terreur à la moindre remontrance. Même Eta frissonnait craintivement à son contact et lui parlait en baissant les yeux. De temps à autre, elle s'oubliait et retrouvait sa familiarité, mais aussitôt qu'elle s'en apercevait, elle était consternée. Seule la vive nef le traitait aussi librement qu'à l'accoutumée. Mais elle venait d'avouer que le miracle avait dressé un mur entre eux. Il refusait de céder à leur superstition. Quoi qu'il se soit produit, Kenneth devait l'accepter et aller son chemin comme avant. Le commandement d'un navire exige du capitaine qu'il mène une vie séparée. Nul ne peut fraterniser sur un pied d'égalité avec le capitaine. Kenneth avait toujours apprécié la solitude du chef. Depuis que Sorcor avait pris la barre de la Marietta, il avait quelque peu perdu de la déférence qu'il vouait à Kenneth. L'incident de la tempête avait rétabli plus fermement la supériorité du capitaine sur son second. À présent, Sorcor le considérait avec un regard de foudroyé. Ce n'était pas la hauteur à laquelle le portait leur respect qui affectait tant Kenneth, c'était la certitude qu'il pouvait se fracasser s'il venait à tomber de ce nouveau piédestal. La moindre erreur, désormais, pouvait le discréditer à leurs yeux. Il devait montrer une prudence accrue. La voie sur laquelle il s'était engagé devenait plus étroite et plus escarpée. Il plaqua sur son visage son petit sourire habituel. Personne ne devait soupçonner ses appréhensions. Il se dirigea vers la cabine de Yémin.
Yémin, voilà de l'eau. Bois.
Eta pressa une éponge au-dessus de sa bouche. Les gouttes tombèrent en pluie. Elle regarda avec angoisse s'entrouvrir les lèvres boursouflées. Il remua sa langue épaisse, avala, puis suffoqua brièvement. « C'est mieux? Tu en veux encore ?»
Elle se pencha et scruta son visage, souhaitant très fort une réaction.
Elle aurait accepté n'importe quoi. Un frémissement de paupières, une dilatation de narines.
Rien.
Elle humecta l'éponge. Voilà encore de l'eau, dit-elle en faisant couler un filet dans sa bouche. Il avala à nouveau. Elle répéta son geste à trois reprises. À la dernière, l'eau ruissela sur sa joue livide. Elle la tamponna doucement. La peau s'en détacha. Eta se laissa aller en arrière sur la chaise à son chevet et le contempla d'un air las. Elle n'aurait su dire si sa soif était étanchée ou s'il était trop épuisé pour avaler. Elle dénombra les signes consolants. Il était vivant,
Il respirait, il buvait. Elle essaya de s'appuyer sur ses constatations pour espérer. Elle retrempa l'éponge dans la casserole d'eau. Elle examina ses mains. Elle s'était brûlée en venant au secours de Yéma. Elle l'avait saisi pour l'empêcher de se noyer et l'humeur visqueuse du serpent sur les vêtements du garçon avait attaqué sa peau en y laissant des taches cuisantes, rouges et luisantes, sensibles au froid et à la chaleur. Et le venin avait provoqué ses lésions après avoir perdu de sa virulence sur les vêtements et la chair de Yéma. Ses habits avaient été réduits en lambeaux fins comme une pelure. Puis, comme l'eau chaude fait fondre la glace, la bave du serpent avait corrodé sa chair. Ses mains avaient été les plus exposées, mais des éclaboussures avaient atteint son visage, avaient rongé sa queue de cheval de marin, laissant des écheveaux irréguliers de cheveux noirs accrochés à son crâne. Éta avait coupé les mèches qui restaient pour éviter qu'elles traînent sur ses plaies. Son cuir chevelu tondu le faisait paraître plus jeune encore. Par endroits, les lésions ne semblaient guère plus sérieuses que des coups de soleil. Mais à d'autres, les tissus à vif luisaient à côté d'une peau saine et hâlée. L'enflure déformait ses traits, ses yeux n'étaient plus que des fentes sous la saillie du front. Ses doigts ressemblaient à des saucisses. Il avait le râle humide. Sa chair suintante collait au drap. Elle devinait qu'il souffrait atrocement, et pourtant, il ne le manifestait pas. Son absence de réaction faisait craindre à Éta qu'il ne soit en train d'agoniser. Elle ferma les yeux en serrant fort les paupières. S'il mourrait, toute la douleur qu'elle s'était exercée à dépasser se réveillerait. C'était monstrueusement injuste, le perdre maintenant, alors qu'elle était enfin arrivée à lui faire confiance. Il lui avait appris à lire, elle lui avait appris à se battre. Elle lui avait jalousement disputé l'attention de Kenneth. D'une certaine façon, ce faisant, elle en était venue à le considérer comme un ami. Comment avait-elle pu se laisser aller à pareille imprudence? Pourquoi avait-elle consenti à devenir aussi vulnérable? Elle avait fini par le connaître mieux que quiconque à bord. Pour Kenneth, Yéma était un porte-bonheur et le prophète de ses succès, quoiqu'il appréciât le gamin qu'il l'aima peut-être à son corps défendant. L'équipage l'avait accepté de mauvaise grâce d'abord, puis avec un orgueil quasi paternel depuis que ce garçon si pacifique avait tenu bon à partage, poignard à la main, et proclamé bien haut son soutien au roi Kenneth. Ses compagnons de bord avaient été passionnés par l'équiper sur la plage au trésor, persuadés que ce qu'il y trouverait serait un présage de la grandeur à venir de Kenneth. Jusqu'à Sorcor qui en était venu à considérer Yéma avec une indulgente affection. Mais personne ne le connaissait comme elle. S'il mourait, il serait triste, mais Éta serait endeuillé. Elle refoula impitoyablement ses émotions. Ce qu'elle ressentait n'avait pas d'importance. Comment la mort de Yéma affecterait-elle Kenneth? C'était là la question essentielle. Impossible à deviner. 5 jours plus tôt, elle aurait juré qu'elle connaissait le pirate comme personne. Non qu'elle prétendît être au fait de tous ses secrets. C'était un homme très réservé et les mobiles de ses actes la laissaient souvent perplexe. Néanmoins, il la traitait avec bonté, mieux même. Elle savait qu'elle l'aimait. Cela lui avait suffi. Elle n'avait pas besoin d'être aimée en retour. C'était Kenneth. Elle n'en demandait pas davantage. Elle avait écouté avec un scepticisme indulgent lorsque Yéma avait commencé à formuler timidement ses suppositions. Sa méfiance première à l'égard de Kenneth avait évolué peu à peu, il le croyait choisi par ça pour accomplir quelque grand destin. Elle avait soupçonné le pirate de jouer avec la naïveté du garçon, l'encourageant dans sa foi afin de pouvoir le rallier à ses entreprises. Elle avait beau aimer Kenneth, elle le savait capable de ce genre de manœuvre. Qu'il emploie tous les moyens pour parvenir à ses fins ne le diminuait pas à ses yeux. Mais c'était avant qu'elle n'ait vu Kenneth lever les mains et hausser la voix pour calmer une tempête et commander à un serpent de mer. Depuis lors, elle avait l'impression qu'on lui avait enlevé l'homme qu'elle aimait pour lui en substituer un autre. Elle n'était pas la seule à ressentir cela. L'équipage qui aurait suivi son capitaine jusqu'à la mort la plus sanglante se taisait à présent à son approche et tremblait presque de terreur au moindre de ses ordres. Il le remarquait à peine. C'était bien là le plus inquiétant. Il paraissait accepter ce qu'il avait fait et attendre de son entourage la même attitude. Il lui parlait comme si de rien n'était. Chose stupéfiante, il la touchait comme avant. Elle n'était pas digne d'être touchée par un être pareil, mais elle n'osait se refuser à lui. Qui était-elle pour discuter la volonté de quelqu'un comme lui? Qu'était-il? Des mots dont elle se serait moquée naguère lui vinrent à l'esprit. Élu des dieux, aimé de ça, prédestiné, révélé, choisi par le destin. Elle aurait voulu en rire, chasser ses idées folles, mais elle en était incapable. Depuis le tout début, Kenick lui avait paru différent des autres. Aucune règle ne semblait devoir s'appliquer à lui. Il avait réussi là où les autres auraient échoué, et il accomplissait l'impossible sans effort. Les tâches qu'il s'assignait la confondaient. L'envergure de ses ambitions l'ébahissait. N'avait-il pas capturé une vive nef de Terrylville? Qui d'autre aurait survécu à l'assaut d'un serpent de mer? Qui, sinon Kenith, aurait pu inciter cette racaille qui peuplait les îles des pirates à commencer de se considérer comme des avant-postes d'un vaste royaume, le royaume légitime de Kenith? Quelle sorte d'homme était-il donc pour nourrir de tels rêves, sans parler même de les réaliser? Yéma lui manquait plus cruellement encore quand elle se posait ces questions. S'il avait été éveillé, il aurait pu l'aider à comprendre. Quoique jeune, il avait passé presque toute sa vie à étudier dans un monastère. Quand elle avait fait sa connaissance, elle l'avait méprisé pour ses manières douces et sa bonne éducation. Si elle pouvait aujourd'hui se tourner vers lui avec toutes ses incertitudes. Des mots comme destin, fortune, présage tombaient de ses lèvres aussi facilement que les jurons de sa bouche à elle. Venant de lui, ces mots-là étaient crédibles. Elle se surprit à jouer avec la petite bourse qu'elle portait autour du cou. Elle l'ouvrit en soupirant et en sortit la minuscule figurine. Elle l'avait trouvée dans sa botte avec du sable et des coquillages de bernicle, après leur fuite de l'île des autres. Quand elle avait interrogé Kenith sur la signification de ce présage provenant de la plage au trésor, il lui avait répondu qu'elle la connaissait déjà. Cette réponse l'avait effrayée plus qu'aucune sinistre prédiction qu'il aurait pu formuler. « Mais je ne sais vraiment pas, » dit-elle doucement à Yéma. Le poupon tenait exactement dans sa paume. On l'aurait cru fait d'ivoire, mais pourtant, il avait la couleur rosée d'une peau de bébé. Le nourrisson recroquevillé et endormi avait des cils minuscules et parfaits sur ses joues, des oreilles comme d'infimes coquillages et une queue de serpent lovée autour de lui. Il se réchauffait rapidement au creux de sa main et les contours lisses de son corps frêle appelaient la caresse. Du bout des doigts, elle suivit la courbe de la colonne vertébrale. « On dirait un bébé, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi ?» Elle baissa la voix et chuchota sur le ton de la confidence, comme si le jeune garçon pouvait l'entendre. « Kenny t'a parlé d'un bébé une fois. Il m'a demandé si j'aurais un enfant au cas où il en voudrait un. Je lui ai répondu que oui, bien sûr. C'est ce que ça veut dire? Est-ce que Kenith va me demander de porter son enfant ?» Elle promena la main sur son ventre plat. À travers sa jupe, elle effleura une petite bosse. Une amulette de bois sorcier en forme de crâne perçait son nombril. Le charme la préservait de la maladie et de la grossesse. « Yéma, j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses rêves. Et si je le décevais, que dois-je faire ?»«
Je ne te demanderai rien qui soit au-dessus de tes moyens. »
Etta se leva d'un bond avec une exclamation de surprise. Elle fit volte-face et découvrit Kenith dans l'encadrement de la porte. Elle se couvrit la bouche.
« Je ne t'avais pas entendu, »
dit-elle d'un air coupable.
« Hein? Mais moi, je t'ai entendu. Notre garçon est réveillé?
Yéma. »
Kenith pénétra en boitant dans la chambre et jeta un coup d'œil plein d'espoir sur la forme inerte.
« Non, il boit, mais à part ça, rien n'indique que son état s'améliore, »
dit Etta toujours debout.
« Mais tu lui poses quand même des questions ?»
fit remarquer Kenneth sur un ton pensif. Il tourna la tête vers elle et lui lança un regard perçant.
« Je n'ai personne avec qui partager mes doutes, »
commença-t-elle, puis elle s'interrompit.
« Je veux dire, »
poursuivit-elle hésitante, mais Kenneth la fit taire d'un geste impatient.
« Je sais ce que tu veux dire, »
déclara-t-il. Il se laissa tomber sur la chaise. Il lâcha sa béquille qu'Etta rattrapa avant qu'elle ne claque par terre. Il se pencha en avant pour examiner Yémin de plus près en fronçant les sourcils. Il effleura le visage enflé du garçon avec une douceur toute féminine.
« Ces conseils me manquent à moi aussi. »
Il caressa la brosse de cheveux sur la tête de Yémin, puis retira la main rebutée par le contact rêche.
« Je songe à le monter sur le gaillard d'avant, près de la figure de proue. Peut-être sera-t-elle capable d'accélérer sa guérison. »
« Mais... »
commença Etta, puis elle se ravisa et baissa les yeux.
« Tu y vois une objection ? Laquelle ?»«
Je n'avais pas l'intention de... »«
Etta !»
aboya Kenneth en la faisant sursauter.
« Épargne-moi tes jérémiades et tes courbettes. Si je te pose une question, c'est parce que je désire que tu me répondes, pas que tu pleurniches. Quelle objection vois-tu à ce qu'on le transporte là-haut ?»
Elle ravala sa peur.
Ses croûtes sont molles, suintantes. Si on le transporte, on va les arracher et retarder sa guérison. Sa peau est à vif, le vent et le soleil vont la dessécher et la crevasser encore plus.
Kenneth ne regardait que le garçon. Il parut réfléchir.
Je vois. Mais on le transportera avec beaucoup de précautions et on ne le laissera pas longtemps.
Vivacia a besoin de s'assurer qu'il est toujours vivant et Yémin, lui, a besoin de la force de Vivacia pour guérir.
« Tu sais mieux que moi, certainement, »
balbutia-t-elle.
Mais il coupa net avec un « En effet, va chercher des hommes pour le transporter. J'attends ici. »
Yémin nageait profond, dans les ténèbres et la chaleur. Quelque part, très haut, il y avait un monde d'ombre et de lumière, de voix, de souffrance et de contact. Il l'évitait. Sur un autre plan, il y avait un être qui le cherchait à tâtons, qui l'appelait par son nom, qui l'appâtait aussi avec des souvenirs. Il était plus difficile de lui échapper, mais il avait une forte détermination. Si cet être le découvrait, ils subiraient tous deux une grande douleur, un grand désenchantement. Tant qu'il restait infime, informe, à nager dans le noir, il pouvait s'y dérober.
On était en train de faire quelque chose avec son corps. Il y avait du fracas, du bavardage et de l'agitation. Il se concentra pour se cuirasser contre la souffrance à venir. La douleur avait le pouvoir de s'emparer de lui et de le retenir. La douleur serait en mesure de le tirer vers ce monde où il avait un corps, un esprit, une collection de souvenirs qui leur correspondaient. Ici en bas, on était beaucoup plus en sécurité.
Ce n'est qu'une illusion. Et même si cette illusion dure longtemps, tu finiras par te languir de la lumière, du mouvement, du goût, du bruit, du toucher. Si tu attends trop, tu perdras peut-être tout cela à jamais.
La voix résonna, ample autour de lui, comme le martèlement du ressac sur les rochers. Tel l'océan, la voix le retournait, le renversait, le considérant sous tous les angles. Il essaya en vain de se cacher. L'être le connaissait.
« Qui es-tu ? »
demanda Yémin. La voix était amusée.
« Qui je suis ? Tu sais bien qui je suis, Yémin Vestrit. Je suis celui que tu crains le plus et celui qu'elle craint le plus. Je suis celui que tu évites de reconnaître. Je suis celui que tu nies, que tu te caches à toi-même, que vous vous cachez l'un à l'autre. Pourtant, je fais partie de vous deux.
La voix se tut et attendit, mais il se refusa à prononcer les mots. Il savait que l'antique magie du nom agissait dans les deux sens. Connaître le vrai nom d'un être, c'était posséder le pouvoir de le ligoter, mais le nommer pouvait aussi le rendre réel.
« Je suis le dragon. »
La voix avait quelque chose d'irrévocable.
« Tu me connais à présent, et rien ne sera plus jamais pareil. »«
Je suis désolé. Je suis désolé. »
bredouilla-t-il silencieusement.
« Je ne savais pas. Personne ne savait. Je suis désolé, tellement désolé. »«
Pas autant que moi. »
La voix navrée était implacable.
« Et pas autant que tu devrais l'être. »
« Mais ce n'est pas ma faute, je n'y suis pour rien. »«
Ce n'est pas ma faute non plus. Pourtant, c'est moi qui suis le plus cruellement puni. La faute n'a rien à voir dans l'ordre de la grande nature, mon petit. Quand le mal est fait, la faute et la culpabilité sont aussi vaines que l'excuse. Une fois qu'on a accompli un acte, on doit en supporter les conséquences.
Mais pourquoi es-tu là, si profond?
Et où devrais-je être? Que me reste-t-il? Lorsque je me suis rappelé qui j'étais, tes souvenirs étaient entassés sur moi. Pourtant me voilà, et je resterai là, que tu me nies ou que tu m'affirmes. »
La voix marqua une pause.
« Que je me nie moi-même, ou que je m'affirme, » ajouta la voix d'un ton las.
La souffrance le taraudait. Yéma se débattit dans un éblouissement de chaleur et de lumière, luttant pour garder les yeux fermés et la bouche close. Qu'était-on en train de lui faire? Peu importait, il ne réagirait pas. S'il bougeait, s'il criait, il serait forcé d'admettre qu'il était vivant et que Vivacia était morte. Il serait forcé d'admettre que son âme était liée à une chose morte longtemps avant qu'il soit né. C'était au-delà du macabre. Il était paralysé d'horreur. C'était là la merveille, la splendeur d'une vive nef. Il devait pour toujours frayer avec la mort. Il ne voulait pas se réveiller et le reconnaître.
« Tu préférerais rester ici en bas avec moi ?»
Dans la voix de la créature perçait à présent une amertume amusée.
« Tu souhaites traîner dans la tombe de mon passé ?»«
Non, non, je veux être libre. »«
Libre ?»
Yéma bredouilla.
« Je ne veux rien connaître de tout ceci. Je ne veux pas en avoir jamais fait partie. »
Tu en as fait partie dès ta conception. Il n'y a pas moyen de défaire ce qui est.
Alors que dois-je faire?
Les mots gémirent en lui, informulés.
Je ne peux pas vivre avec ça.
Tu pourrais mourir, proposa la voix sardonique.
Je ne veux pas mourir.
De cela au moins il était certain.
Moi non plus,
rétorqua la voix impitoyable.
« Mais je suis mort. Aussi riche que je sois de tous mes souvenirs de vol, mes propres ailes ne se sont jamais déployées. Pour construire ce navire, on m'a dépouillé de mon cocon avant que je puisse éclore. Sur les dalles froides, on a jeté ce qui aurait dû être mon corps. Je ne suis fait que de souvenirs, souvenirs enchâssés dans les parois de mon cocon. » Des souvenirs que j'aurais dû réabsorber en prenant forme sous le chaud soleil d'été. Je n'avais aucun moyen de vivre et de grandir sinon à travers les souvenirs que ta race offrait. J'ai absorbé ce que vous m'avez donné, et quand ce fut assez, je me suis éveillé. Mais pas en tant que moi, non. Je suis devenu la forme que vous m'avez imposée. J'ai adopté la personnalité qui était la somme des espérances de ta famille. Vivacia.
Un brusque changement de position réveilla la souffrance physique de Yéma. L'air le submergea, la chaleur du soleil l'effleura.
Ce contact échauda sa chair mise à nu. Mais pire que tout était la voix qui l'appelait dans un mélange de joie et d'inquiétude. « Yéma, tu m'entends? C'est Vivacia. Où es-tu? Que fais-tu? Je ne te sens pas du tout. » Il sentit les pensées du navire se tendre vers lui. Il se déroba en tremblant, refusant le contact. Il se fit tout petit, se cacha plus profond. Dès que Vivacia l'atteindrait, elle saurait tout ce qu'il savait. Quel effet cela produirait sur elle d'affronter ce qu'elle était réellement?
Tu as peur que cela la rende folle. Tu as peur qu'elle t'emporte avec elle.
Il y avait une jubilation féroce dans la voix quand elle formula la pensée, presque une menace. Yémin fut glacé de peur. Il comprit aussitôt que sa cachette n'était pas un asile, mais un piège. « Vivacia ! » s'écria-t-il éperdument, mais son corps ne lui obéit pas. Aucun son ne sortit de ses lèvres. Sa pensée même était étouffée dans le dragon, enveloppé, étranglé, confiné. Il essaya de lutter. Il suffoquait sous le poids de sa présence. Le dragon le tenait si serré qu'il en oubliait comment respirer. Son cœur bondissait follement. La souffrance le sabrait, son corps protestait en se contractant. Dans un monde lointain, sur un pont inondé de soleil, des voix effarées criaient leur impuissance. Il battit en retraite dans une immobilité du corps et de l'âme, ultime degré de ténèbres avant la mort.
« Bien !»
Il y avait de la satisfaction dans la voix.
« Reste tranquille, mon petit. N'essaie pas de me défier, et je ne serai pas obligé de te tuer. »
Un silence.
« Je n'ai vraiment aucun désir de nous voir mourir. Entremêlés comme nous le sommes, la mort de l'un mettrait les autres en danger. Tu l'aurais compris si tu avais pris le temps de réfléchir. Je t'en donne le loisir maintenant. Emploie-le à méditer sur notre situation. »
Pendant un instant, Yémin se concentra seulement sur sa survie. Le souffle pénétra puis frémit dans ses poumons. Son pouls devint plus régulier. Il était vaguement conscient des exclamations de soulagement. La douleur bouillonnait toujours. Il tenta de s'en échapper, de méconnaître ses clameurs, afin de pouvoir se consacrer au problème que le dragon lui avait soumis. Il se recula soudain devant son éclat d'irritation.
« Par tout ce qui vole, tu n'as donc pas une once de bon sens ? Comment des créatures telles que toi sont-elles arrivées à survivre et à infester le monde si complètement en étant à ce point ignorantes d'elles-mêmes ? Ne recule pas devant la douleur. Imagine qu'elle te rend fort. Regarde-la, espèce de nigaud. Elle cherche à te dire ce qui ne va pas de façon que tu puisses y remédier. Pas étonnant que vous ayez une vie si brève. Non, regarde-la, comme ça. »
Les hommes d'équipage qui avaient porté Yémin, chacun à un des quatre coins du drap, l'avait déposé en douceur sur le pont. Malgré tout, Kenith avait surpris le spasme de souffrance qui avait crispé le visage du garçon. Il supposa qu'on pouvait l'interpréter comme un signe encourageant. Au moins, répondait-il, encore à la douleur. Mais quand la figure de proue lui avait parlé, il n'avait même pas frémi. Personne, parmi ceux qui entouraient la forme étendue, ne pouvait deviner à quel point le capitaine était inquiet. Il avait été persuadé que le gamin réagirait à la voix du navire. Peut-être cette absence de réaction signifiait-elle que la mort l'avait emporté. Kenith croyait qu'il y avait quelque part, entre la vie et la mort, un espace où le corps n'était plus qu'un misérable animal, seulement capable de réflexes instinctifs. Il l'avait déjà observé. Sous la cruelle supervision d'Ygrotte, son père avait tenu des jours dans cet état. Peut-être Yémin en était-il là à cette heure. La pénombre dans la cabine avait été charitable. Ici, en plein jour, Kenith ne pouvait persister à croire que tout irait bien pour le garçon. Son corps brûlé était hideusement révélé dans le moindre détail. Sa brève crise de spasme avait déplacé les croûtes suintantes que son corps avait réussi à former. De ses plaies s'écoulait un liquide séreux. Yémin était mourant.
son enfant prophète. Le prêtre qui aurait dû être son devin était en train de mourir alors que l'avenir de Kenith n'était pas encore né. Il fut envahi par un sentiment d'injustice. Il étouffait. Il avait été si près d'atteindre son rêve. À présent, il allait tout perdre avec la mort de cet adolescent. C'était trop décourageant. Il ferma les yeux et serra les paupières sur la cruauté du destin.
« Oh, Kenith !»
s'écria la vive nef à voix basse, et il sut qu'elle partageait ses émotions.
« Ne le laisse pas mourir !»
supplia-t-elle.
« Je t'en prie, tu l'as sauvé du serpent et de la mer. Ne peux-tu le sauver aujourd'hui ?»«
Silence !» ordonna-t-il presque rudement.
Il fallait qu'il réfléchisse. Si le garçon mourait maintenant, ce serait la négation de cette chance qu'il avait cherché à s'attirer. Ce serait pire que la guigne. Il ne pouvait en accepter l'éventualité. Peu soucieux des hommes rassemblés qui regardaient dans un profond silence le garçon supplicié, Kenith se baissa gauchement sur le pont. Il scruta longuement le visage inerte de Yéma. Il posa un index sur un endroit intact de la joue. Le gamin était encore imberbe, la peau était douce. Le spectacle de cette beauté détruite lui déchira le cœur.
« Yéma, » appela-t-il doucement. « Fiston, c'est moi, Kenith. Tu as dit que tu me suivrais. Ça t'a envoyé pour parler en mon nom. Tu te souviens? Tu ne peux pas t'en aller maintenant, petit. Pas alors qu'on est si près du but. »
Il fut vaguement conscient des murmures étouffés qui passèrent dans les rangs des matelots. Compassion. Il éprouvait de la compassion pour lui. L'idée qu'il puisse interpréter ses paroles comme une marque de faiblesse l'irrita brièvement. Mais non, ce n'était pas de la pitié. Il leva les yeux sur leur visage et n'y lut que de l'inquiétude, non seulement pour Yéma, mais aussi pour lui. Ils étaient touchés par la sollicitude que montrait leur capitaine à l'égard de ce gamin blessé. Il soupira.
« Eh bien, si Yéma devait mourir, lui, Kenith, tournerait l'événement à profit autant qu'il le pourrait. »
Il lui caressa doucement la joue.
« Pauvre petit !»
marmonna-t-il assez haut pour être entendu.
« Tant de souffrance, et il serait plus charitable de te laisser partir, non ?»
Il leva les yeux vers Etta. Les larmes ruisselaient sans retenue sur ses joues.
« Essaie de lui donner encore à boire !»
ordonna-t-il avec douceur.
« Mais ne sois pas déçu. Il est entre les mains de ça maintenant, tu sais. »
Le dragon altérait sa conscience. Yéma ne voyait pas avec ses yeux ni ne se complaisait dans la douleur. Mais le dragon infléchissait sa conscience vers une direction inexplorée. Qu'était-ce que la douleur? Des éléments détériorés de son corps, des brèches dans ses barrières de défense contre le monde extérieur. Les barrières avaient besoin d'être réparées, les éléments détériorés devaient se décomposer et se disperser. Rien ne devait faire obstacle à cette tâche. Il fallait y consacrer toutes les ressources. Son corps l'exigeait de lui et la souffrance était la sonnette d'alarme. Yéma ?
La voix d'Etta perça la noirceur ouatée.
« Voilà de l'eau !»
Il sentit un filet humide, agaçant sur sa bouche. Il remua les lèvres, s'étrangla brièvement en essayant de l'éviter, mais il comprit aussitôt son erreur. Ce liquide était nécessaire à son corps pour se reconstituer. De l'eau, un peu de nourriture et le repos absolu libéraient des dilemmes qui le grevaient. Une légère pression sur sa joue. De très loin, une voix qu'il connaissait.
« Meurs s'il le faut, fiston, mais sache que cela me fait mal. Ah, Yéma, si tu m'aimes ne serait-ce qu'un peu, résiste et vis. N'abandonne pas le rêve que tu as toi-même prédit. »
Les mots se rangèrent dans sa mémoire, pour être examiné plus tard. Pour le moment, il n'avait pas de temps à consacrer à Kénith. Le dragon lui montrait quelque chose d'essence divine qu'il s'étonnait d'avoir abrité si longtemps en lui, à son insu. Le mécanisme de son corps se déployait devant lui. L'air chuchotait dans ses poumons, le sang circulait dans ses membres et tout cela lui appartenait. Ce n'était pas un domaine incontrôlable. C'était son propre corps. Il pouvait le réparer. Il sentit qu'il se détendait. Nullement limité par la tension, les ressources de son corps se répandaient vers les parties malades. Il connaissait ses besoins. Au bout d'un moment, il découvrit les muscles réticents de ses mâchoires et de sa langue engourdie. Il remua les lèvres.
« De l'eau !»
parvint-il à croasser. Il leva un bras roide pour tenter faiblement de se protéger de la lumière.
« De l'ombre !»
supplia-t-il. La caresse du soleil et du vent sur les lésions de sa peau lui causait une douleur atroce.
« Il a parlé !»
s'exclama Etta, exultante.
« C'est le capitaine !»
dit quelqu'un.
« Il l'a ressuscité !»
« La mort elle-même recule devant Kénith !»
déclara un autre. La paume rêche qui lui effleurait la joue avec tant de douceur et les mains forces qui lui soulevaient la tête pour porter à sa bouche la tasse merveilleusement fraîche et embuée de gouttelettes, c'était Kénith. « Tu m'appartiens, Yémin !» déclara le pirate. Yémin but à ses paroles.
« Je crois que tu peux m'entendre !»
trompeta celle qui se souvient en nageant dans l'ombre de la coque argentée. Elle réglait son allure sur celle du navire.
« Je flaire ton odeur. Je sens ta présence, mais je ne peux te trouver. Est-ce à dessein que tu te caches de moi ?»
Elle se tut, tous les sens tendus afin de capter une réaction. Quelque chose... Elle goûta quelque chose dans l'eau, une saveur amère comme les toxines piquantes de ses propres glandes. Ses selles suintaient de la coque du navire, si une telle chose était possible. Elle avait l'impression d'entendre des voix, si lointaines qu'elle ne distinguait pas les mots, seulement une rumeur. C'était incompréhensible. Le serpent était tout près de croire qu'il devenait fou. Quelle ironie ! Atteindre la liberté et être vaincu par la folie. Celle qui se souvient... frémit de tout son corps et sécréta un mince filet de toxines.
« Qui es-tu »
demanda-t-elle.
« Où es-tu ? Pourquoi te caches-tu de moi ?»
Elle attendit une réponse. En vain. Personne ne lui parla, mais elle fut persuadée qu'on l'écoutait.